Aujourd'hui, 24 janvier, nous allons augmenter en gamme, puisque nous allons nous attaquer au verbe. Nous avons fait jusqu'à présent, dans le premier semestre de l'année, l'essentiel du latin, c'est-à-dire les déclinaisons. Et là, nous allons nous attaquer au verbe. Et pour ceux qui sont nouveaux, nous allons utiliser les chapitres de ce livre, le latin par l'exemple, de l'abbé Olivier Gunst Horn, G-U-T-R-E-M-A-N-S-T, plus loin, H-O-R-N, aux éditions de Traditions monastiques de Flavigny, Initiation au latin de l'Église. Alors, nous allons ouvrir ce livre. Première page, elle est blanche. Impressionnant. Deuxième page, Abbé Olivier Gunst Horn, le latin ecclésiastique, par l'exemple. Déjà, il change de titre. Vous avez remarqué que c'est le latin par exemple, et là, le titre c'est le latin ecclésiastique par exemple. Mais vous avez les traditions monastiques, et vous avez en bas 2014, deux fois M, un 10, un 1, devant un 5, ça prive d'un 1, c'est 2014. Ensuite, vous tournez, et vous voyez du même auteur vers de nouvelles traditions liturgiques, aux éditions de l'Homme Nouveau. Et là, alors, l'abbé Olivier Gunst Horn est né en 1947, ordonné prêtre en 1979, diplômé de latin ecclésiastique de la faculté de théologie de Toulouse, passionné par l'étude et l'enseignement des langues, il a entrepris la rédaction de ce cours de latin ecclésiastique à l'usage des séminaires et des monastères. Voilà. Alors, à Benoît XVI, qui a institué à Rome le 10 novembre de l'an 2012, l'Académie pontificale de latinité, page 11, vous avez magistère de l'Église et l'étude du latin. Le vénérable Pie XII disait le 20 novembre 1947, dans son encyclique Mediator Dei sur la Sainte Liturgie, l'emploi de la langue latine en usage dans une grande partie de l'Église, est un signe d'unité manifeste et éclatant, et une protection efficace contre toute corruption de la doctrine originale. Le 22 février 1962, le bienheureux Jean XXIII publiait une importante constitution apostolique, Veterum Sapientia, pour le développement de l'étude du latin. Vous voyez, actuellement, le Saint Jean XXIII, maintenant, lui, n'aurait jamais accepté que le latin soit abandonné. Et là, vous avez donc tous les textes, jusqu'à la page 13. Nous nous arrêtons là, car nous voulons aller au plus juste. Ici, vous avez une première introduction générale qui vous explique le mode d'action du livre. Introduction générale, page 15. Cet ouvrage n'a d'autre prétention que celle d'être une initiation au latin ecclésiastique. Commencement, initium. Autrement dit, il s'adresse à des débutants cultivés, mais sans notion de latin, ou à de faux débutants qui voudraient mettre un peu d'or dans leurs connaissances. Voici comment cet ouvrage est conçu. Les deux premières leçons sont des leçons de pré-initiation. À partir de la leçon 3, le plan de chaque leçon est le suivant. Une phrase latine ou un fragment de phrase qui tient lieu de titre. Une série de phrases ou de fragments de phrases qui illustrent un point particulier de la grammaire latine. Dans ces phrases, les mots imprimés en gras sont ceux qui ont un rapport avec le point de grammaire étudié. Chaque leçon aborde un point de grammaire et un seul. Une partie grammaticale avec le plus souvent des tableaux de déclinaison ou de conjugaison. La déclinaison, c'est la fin des mots en latin. Vous voyez, la désinence. Vous voyez, la déclinaison, c'est l'ensemble de fin de mots. Par exemple, le verbe aimer au présent, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, c'est une conjugaison. Mais en latin, la fin des mots indique une fonction grammaticale. Les verbes en français indiquent encore le nombre et les personnes et le genre parfois aussi. Eh bien, dans les mots latins, c'est les fonctions grammaticales. Nous allons le voir. Auquel nous avons apporté le plus grand soin afin de faciliter au maximum la mémorisation. Si l'un d'entre vous a le livre que j'avais, où j'avais fait des corrections, vous voyez, s'il voit qu'il y a des inscriptions de ma main, eh bien, comme ça je lui en donnerai un œuf et il pourra l'utiliser. J'ai peur d'avoir donné celui que j'avais déjà crayonné. Voilà. Donc s'il y en a un qui trouve des... Mais plus tard, hein, ça sera en regardant. Une partie consacrée au vocabulaire avec des indications concernant l'étymologie. Par exemple, oculus, œil, donne oculiste. En clair, voilà. Après la partie grammaire ou la partie vocabulaire, l'attention est attirée lorsqu'il y a besoin sur quelques particularités grammaticales ou lexicales. Ces particularités sont représentées grâce au signe étoile rouge. Flèche rouge plutôt. Dans certains cas, nous employons la couleur rouge pour attirer l'attention sur un point particulier important. Viennent ensuite quelques explications phrase par phrase, grammaire, vocabulaire, étymologie. Cette partie permet d'expliquer certains points de grammaire que la leçon n'aborde pas, ainsi que le vocabulaire s'il y a lieu. Pour terminer, quelques exercices sont proposés à l'apprenti latiniste, car il n'y a pas d'apprentissage possible sans un minimum d'exercices. Bien, ici, nous ne faisons pas d'exercices parce que je répète tellement les mêmes choses à chaque cours que normalement, vous n'en avez pas besoin. Mais vous pouvez quand même faire des exercices. Mais en général, vous voyez, arrivé adulte, on a un peu de mal à faire des exercices chez soi, donc je répète très très souvent les choses. À l'exception des toutes premières leçons, les phrases données en exemple au début de chaque leçon sont tirées de la Sainte Écriture. Page 16. Convention typographique. Nous avons retenu la graphie des livres liturgiques officiels de la librairie éditrice du Vatican, dans lesquelles la lettre J n'existe pas. Ah, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est la lettre I qui prévaut. Par exemple, Jésus. La ponctuation latine actuelle est la même que la ponctuation française à ceci près. En français, il n'y a pas d'espace avant la virgule et le point, mais il y en a avant les signes doubles. En latin, il n'y a jamais d'espace. Oui. Mais voilà. En latin, l'accent tonique a une importance particulière. C'est à ce point que le déplacement de l'accent tonique peut changer le sens du mot. Loqueris, c'est tu parles dans un sens particulier d'un verbe. Hein. Mais loqueris, c'est tu parleras. Nous allons faire du latin liturgique. Hein. Donc on va pas entrer dans ces détails-là. Hein. Je vous préviens tout de suite.
C'est l'histoire de la pénultiérée, de l'antépénultiérée.
Tout à fait. Voilà. Et moi, vous voyez, pour l'instant, moi, mon but, c'est que vous puissiez dire le paternoster à l'endroit à l'envers, l'Ave Maria à l'endroit à l'envers, le Confiteor à l'endroit à l'envers, les antiennes mariales à l'endroit et à l'envers, en sachant ce que ça veut dire et l'ordre des mots. Vous voyez. Et ensuite, on verra les nuances grammaticales, mais mon but dans ce cours, c'est le latin simple. Bien que l'accent écrit ne fasse pas partie de la langue latine, parce que les latins n'écrivaient même pas l'accent, nous on l'inscrit pour nous, mais pour les latins c'était évident, et puis c'était une coutume orale. À la différence de la langue grecque ancienne, qui possède un système d'accentuation fort complexe, Nous avons adopté, pour les phrases exemples en tête de chaque leçon, ainsi que pour les tableaux des exercices, le système utilisé par l'Église catholique pour les textes liturgiques. Parce que comme les textes sont souvent chantés, eh bien, l'accent tonique permettait de faire des inflexions de voix à tel ou tel endroit en respectant l'accent tonique ancien du latin, pour que ce soit correct. Dans les mots d'une seule syllabe, la voyelle, même si elle est accentuée oralement, ne porte pas d'accent. Il n'y a qu'une seule syllabe. Dans les mots de deux syllabes, c'est toujours la première qui est accentuée, elle n'a donc pas besoin d'accent. Dans les mots de plus de deux syllabes, la voyelle accentuée est surmontée d'un accent aigu. Dans les explications grammaticales, la liste de vocabulaire ou le lexique alphabétique, l'accent aigu ne figure pas. Il existe aussi un accent de quantité ou longueur qui consiste à un petit trait surmontant une voyelle longue. Vous voyez, c'est jeune. Hein, jeune. Ici, c'est un trait. Nous avons un accent circonflexe. Notamment sur le A final, à l'ablatif singulier de la première déclinaison, mais là, il parle de quelque chose qu'il n'a pas encore expliqué. Bon. Rosa. Rosa.
Dans les grammaires, il accentue.
Ah oui, l'ablatif est toujours accentué. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa. Rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est un A long. Gratia plena, n'est-ce pas? Bon. L'Église catholique n'a pas retenu pour les textes liturgiques ce signe diacritique. Et rares sont les prêtres, du moins parmi ceux qui célèbrent en latin, qui marque ce A long dans la prononciation. Ave Maria, gratia, plena. Il se fait lyncher à la fin de la messe. Donc, pas de particularité, de coquetterie en cette matière. Cependant, il nous a paru bon de l'indiquer dans ce cours afin que l'étudiant puisse distinguer sans peine l'ablatif du nominatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puisque nous sommes à présent dans les déclinaisons, il est grand temps de passer à la leçon 1. Alors, ici, c'est introduction aux déclinaisons. Ce n'est pas la peine de lire les petits tableaux si on ne sait pas ce que ça veut dire. Les Français redoutent le latin à cause des déclinaisons. Qu'est-ce que c'est que ça? Les déclinaisons existent aussi en français, même si on ne leur donne pas ce nom. On appelle déclinaison en latin la variation des substantifs. En fait, c'est des noms. Voyez. Un nom. Par exemple, seigneur, c'est un nom. Petit, c'est un adjectif. Lui, c'est un pronom. Elle, c'est un pronom. Alors, en langage un peu plus grammatical, nom, c'est un substantif. En français, on dit un cheval, des chevaux. Ben, c'est une toute petite déclinaison française. Voilà. C'est la fin du mot. Désigne ici le nombre. C'est tout. Changement de nombre. Mais en français, on met un S au pluriel. C'est une sorte de déclinaison. On dit en revanche un chacal, des chacals. C'est que tous les noms ne se déclinent pas de la même façon. En nombre. Autre exemple. Je suis là, il me voit, il me parle, il reste avec moi. Il est là, je le vois, je lui parle, je reste avec lui. Eh bien, c'est le pronom personnel de première personne du singulier. ou troisième personne du singulier qui se modifie suivant sa fonction grammaticale. Eh oui. Je suis là, c'est sujet. Il me voit, c'est complément d'objet direct. Il me parle, complément d'objet indirect. Ah, c'est très drôle. C'est le même « me », mais il parle à qui ? Oui, complément d'objet d'attribution, complément d'objet direct, complément d'objet second. Il y a trois manières. Et je suis sûr que les grammairiens d'ici 5 ans trouveront une quatrième façon de parler du complément d'objet indirect, complément d'attribution, complément d'objet second. Et un jour, ça serait le complément de don dans le partage. Voilà. Des grammairiens complètement...
Le partage citoyen.
Ou ben voilà, le complément du partage citoyen. Voilà. Un jour sans doute. Où il reste avec moi, c'est complément circonstanciel de moyen, et ici, c'est... mais moi, c'est plutôt une première personne aussi, enfin c'est bon. Je mets les mots en gras sont différentes formes d'un même pronom. Je... Me, moi. Il, le, lui. Page 18. Les déclinaisons, ce n'est pas autre chose que cela. La grosse différence en latin, c'est que l'on donne des noms particuliers aux différentes fonctions que l'on appelle des cas. Ah, quelle idée, mais c'est comme ça. Ça, pour le coup, on ne va pas pouvoir changer ça. Le sujet d'une phrase, en latin, ça s'appelle nominatif. Comme la plupart du temps, le sujet d'une phrase est un nom. La fleur est belle. Le sujet de cette phrase, c'est la fleur. Le verbe, c'est est. Belle, adjectif, qualificatif. Attribut du sujet, parce que c'est un verbe d'état qui décrit le sujet. Thomas mange la pomme. Thomas, sujet, ou l'élève écrit, ou l'élève copie sa punition. L'élève, sujet, copie, verbe, sa punition, complément d'objet direct. Il y a une action sur l'objet. Ce n'est pas l'élève est sage. Ça serait un attribut du sujet d'être sage. Ou l'élève reste sage. C'est aussi un attribut du sujet parce que le verbe rester, demeurer, être, décrit le sujet, mais ne donne pas une action du sujet. En latin, le sujet, qui est la plupart du temps un nom, ça s'appelle nominatif. Et on décrit le sujet nominatif. Bon. C'est tout, hein. Et je vais vous le dire tellement souvent que vous allez le savoir. Ceux qui ont fait le premier semestre, en ce moment, ça les rase plus près. Oui. Parce que comme je leur ai dit 500 fois nominatif, sujet, 500 fois nominatif, sujet, nominatif, ils disent mais c'est pas possible. Et si. Vocatif. Ah, très important en latin d'église. J'appelle de la vox, de la voix. Vocatif. J'apostrophe, j'appelle. Complément d'objet direct. L'élève accuse sa maîtresse de sévérité. Il accuse. Verbe. Qui ? Sa maîtresse. Action sur la maîtresse. L'élève jette une craie sur sa maîtresse. Il y a une action, c'est jeter la craie. Vous voyez ? Mais il jette quoi ? Une craie, complément d'objet direct. La maîtresse n'a pas le droit de le gifler. Ça, c'est trop compliqué. Alors, accusatif, complément d'objet direct. Ou après certaines prépositions, c'est-à-dire qu'on verra quand il y a un mouvement, une action, on utilisera l'accusatif. Génitif, c'est quoi le génitif ? Le chapeau de Napoléon est un signe distinctif de cet empereur. Le tsar, c'est l'aigle à deux têtes. Napoléon, c'est son chapeau. Et tous les morts qu'il a provoqués à travers l'Europe. Donc, le chapeau de Napoléon. Le chapeau et Napoléon sont liés. Ils se complètent l'un l'autre. Complément du nom chapeau, Napoléon. C'est comme une excroissance du chapeau, c'est un peu particulier, ils sont liés, c'est un engendrement génitif. La beauté de la fleur produit, engendre une beauté. Napoléon, lui, il engendre un chapeau, et de nombreux morts aussi. Vous comprendrez que, bien que mon père soit corse de père et de mère, et donc que je sois à moitié corse, je suis peu napoléonien ou bonapartiste. Voilà. Complément de nom, c'est le génitif. Le datif, complément d'objet indirect. Vieille nomenclature dans le vocabulaire grammatical. Complément d'attribution, complément d'objet second aussi, on trouve. À qui, pour qui, contre qui. Ablatif, en latin, ça veut dire placé à côté de, sur le côté de, latéral. Hein? Latif, latéral. Ablatif, placé à côté. C'est un complément circonstanciel. Alors là, on va aller à la page 15. Et on va voir les exemples. Comme quoi, cette première leçon n'est pas très bien faite. On commence par des exemples, mais on ne le comprend pas. On continue la leçon et on doit revenir en arrière. Voilà. Page 17. Dominus dixit. Le Seigneur a dit. Alors là, on va retenir pour l'instant que le français. Le Seigneur a dit. Nominatif. Dominus est, nominatif, c'est le Seigneur. Domine, alors Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir. Domine, c'est apostrophe, vocatif. On apostrophe Dieu. Hein? Suivant la dignité de la personne apostrophée, le ton de la voix est différent. Voyez, Ave, César. Voilà. Moritorite et salutante. Salut mon pote César, on va crever. Non, vous voyez, ça c'est une expression argotique, malaisée chez celui qui va mourir et qui va peut-être demander la grâce à l'empereur. Donc je peux vous assurer qu'il dit plutôt salut César, ceux qui vont mourir. Te salue. Vous voyez, parce que en latin, il n'y a pas de vouvoiement. C'est que le nombre. Tu, c'est parce que la personne est seule. Vous, c'est parce qu'ils sont deux, au moins deux. C'est dans le ton de la voix. Oui. Seigneur, je ne suis pas digne. Louer le Seigneur. Complément d'objet direct. Accusatif. Parole du Seigneur. Le Seigneur engendre sa parole. Génitif. Chantez au Seigneur. Je chante à qui? au Seigneur. Complément d'objet indirect. Le Seigneur aidant. Ablatif. Dans le Seigneur. Ablatif. Complément circonstanciel. Alors, on va devoir repartir dans l'autre sens, page 18. Le tableau en tête de leçon donne des exemples de la déclinaison singulier du nom masculin Dominus. Alors, ce qui n'est pas très honnête, c'est qu'on ne commence pas par la première. Mais là, c'est la deuxième déclinaison qu'on va revoir dans la leçon, page 24. Dominus, c'est sujet ou attribut du sujet. Dominer, c'est appeler quelqu'un. Dominum, c'est complément de l'objet direct, accusatif. Domini, c'est complément du nom. Domino, c'est datif. Domino, c'est complément circonstanciel. Au fil des leçons, nous verrons les différentes déclinaisons, manières de dire si c'est un sujet, si c'est un complément. Il va falloir s'habituer. Des noms masculins, féminins et neutres, au singulier ou au pluriel. C'est... Oui.
L'accent reste le même sur la première syllabe, pour quelle que soit la déclinaison.
Oui, non. Ici, ça sera la première parce qu'il y a trois syllabes. C'est domino.
C'est ça.
Mais parfois, ça change.
Pour tous les cas.
Pour tous les cas, ici, oui. Ainsi que les déclinaisons des adjectifs et des pronoms. Mais chaque chose en son temps. Remarquez l'importance des terminaisons en latin, ci-dessus imprimées en rouge. En latin, que ce soit pour les noms, les adjectifs, les pronoms ou les verbes, il faut toujours être très attentif à la fin des mots, aux terminaisons. Dans ce cours, nous utilisons l'ordre le plus courant des déclinaisons, l'ordre français. En allemand, c'est différent. Je crois même qu'en espagnol, c'est...
En belge aussi.
En belge, c'est... Oui, c'était...
Nominatif, vocatif, génitif.
Oui.
Et puis accusatif, datif, ablatif.
Voilà, c'est une coquetterie nationale. Ouais. Alors, ici, voyez-vous... Nous allons voir la deuxième leçon pour bien suivre sa méthode. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Là, il nous donne le début de la prière du Gloria dans la messe. Cette phrase, dont le verbe est sous-entendu, que tout catholique connaît par cœur, est intéressante du point de vue des déclinaisons qu'elle contient. Elle nous servira d'introduction à l'étude des déclinaisons latines. En voici à titre indicatif une explication mot par mot. Et ben moi je trouve que c'est un peu raide de tout de suite donner du vocabulaire qu'on comprend pas. Hein. Première, deuxième, troisième déclinaison, c'est terrible. Donc, on va sauter à la page 20. Nous venons de voir des noms masculins, féminins ou neutres. Vous voyez, des noms qui, par exemple, un temple, c'est ni masculin ni féminin. Il y a trois genres en latin. Nous voyons également les noms de la première, deuxième et troisième déclinaison. Il y a cinq façons de dire les mots. Ça va trop vite ici. Nous voyons également un adjectif de la première classe, mon Dieu. Il y a deux classes d'adjectifs en tout et pour tout. C'est trop compliqué comme vocabulaire. Bon. Mais comme ça, on le lit ensemble pour vous ne pas vous donner l'envie de le lire tout seul. Et de vous dégoûter, vous voyez. Enfin, oui, mais vous comprenez parce que vous avez suivi le premier semestre. Mais sur ma droite, il y en a un qui fait de la brasse coulée. Remarquez la ressemblance avec le français. Gloria, ça veut dire table. Non, gloire. Deu, ça veut dire Dieu. Et, ça veut dire mais. Non, ça veut dire et. Hein. Terra, ça veut dire eau. Ah non, ça veut dire terre. Vous voyez, donc c'est proche. Hein. Pax, ça veut dire guerre. Non, ça veut dire paix. Bonus, ça veut dire mauvais, et voluntas, ça veut dire haine. Voilà. Donc, nous allons voir la leçon 3, qui va nous permettre d'être beaucoup plus concret. Ici, nous avons des morceaux des litanies de la Vierge Marie. Et ça va nous permettre d'entrer dans ce mystère qui est la déclinaison. La première déclinaison d'un nom en latin. Donc là, un moment de recueillement pour Jacques Brel.